Intermondial.
RCV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Hey, salut, bon mercredi. Ça vient maintenant, on ne sait pas trop si on est lundi, mardi ou mercredi. On est bien dans le milieu de la semaine. Ouais, la moitié de la semaine est presque faite au complet. Là. Salut, j'espère que vous allez bien avec cette température qui est somme toute agréable malgré que ce soit un peu nuageux. Il fait 21 degrés à l'extérieur, on le ressent. Là. On ressent aussi l'humidité. Il y en a qui ont eu de la misère à dormir, c'est ce que j'ai vu au 88-971-1021 dans les salutations. Oui, c'est normal, puis peut-être que c'est le temps même de partir l'air climatisé. Moi, hier, j'ai pas osé l'air climatisé encore, mais j'ai osé le ventilateur. Je me suis dit, on s'approche quand même de cette période-là. Et on est bien content de ça. On dirait qu'on a une année quand même assez clémente côté température. Je pense pas que je me trompe. Là. On espère que ça soit ça pour le reste de cette période estivale qu'on entame tranquillement, pas vite. Et quand je regarde les prochains jours, ben, on va faire le tour tantôt, mais ce sont de très belles journées. Ça s'est ajusté. On pensait avoir du soleil à Québec seulement la semaine prochaine, mais non, ça a changé. Mon nom est Pascal, Pascal CV. On entame l'heure CV ensemble jusqu'à 11h. Et la façon de communiquer avec moi, bien sûr, c'est par texto. 88-971-1021. Vous pouvez m'appeler aussi. On dirait qu'on n'y pense pas. C'est que ça va vite. Hein? Mais sinon, Twitch. Quelle façon incroyable de passer cette heure-là ensemble. Salut à tout le monde. Hey, ça, c'est une personne que je n'ai jamais vue en plus sur Twitch. J'adore ça. Salut. Parce que vous avez des pseudos. Hein? On appelait ça comme ça dans mon temps. Je ne sais pas si à 30 ans, dire un pseudo, c'est dépassé. Là. Mais c'est des noms qu'on invente, en fait, pour avoir un genre de compte sur Twitch. twitch.tv/blvd/fm. Fait que vous pouvez vous cacher derrière une identité, mais utilisez bien le caractère caché. Là. On va le dire comme ça. Hey, si je vous fais entendre ceci, est-ce que vous allez comprendre pourquoi il faut être bien à l'écoute de Boulevard, peut-être aussi dans la prochaine heure?
Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding.
On a annoncé un gros concours, une soirée VIP avec un des gars de Papa Roach sur nos ondes hier. Et ben, on fait des gagnants. Ça se peut que je dis ça comme ça, je dis rien. Ça se peut que j'ai une paire de billets dans leur CV. Puis on va commencer tout de suite l'émission avec notre proverbe du jour. Qui se nourrit d'attente risque de mourir de faim. C'est vrai que dans la vie, on est mieux de ne pas avoir d'attente et ou de les concrétiser. Et non, justement, de faire en sorte que peut-être tout vienne à nous et de mourir de faim. J'adore ce proverbe-là. Qui se nourrit d'attente risque de mourir de faim. Je pense que ça peut parler à plusieurs personnes. Hey, allez vous couler votre café. Vendredi, Rouge Pompier.
RCV avec Pascal CV.
Oui, il y en a qui ont compris pourquoi j'ai fait passer un extrait de Papa Roach dans les dernières minutes. Si vous voulez saluer qui que ce soit, 88-971-1021, moi, je prends les présences. Qui est là? Qui va être fidèle au poste pour les prochaines minutes? Du moins, pour essayer de gagner sa paire de billets pour le show en solo VIP acoustique avec un des gars de Papa Roach. Côté météo, je vais le faire tout de suite. C'est 27 degrés comme maximum aujourd'hui. Alternance soleil-nuage. On est à 21. Il nous reste 6 degrés pour que ça grimpe au maximum. Demain, jeudi, risque d'orage. C'est un peu le scénario en fait qu'on va avoir cette nuit qui va se transposer demain. 26 degrés, des averses prévues aussi pour la capitale nationale. À partir de vendredi, c'est du soleil jusqu'à dimanche. On a un magnifique week-end sur notre territoire bien-aimé. Et c'est 21 degrés pour vendredi, 22 pour samedi, 23 pour dimanche. C'est vraiment des températures extraordinaires qui nous donnent le goût que les événements festifs arrivent plus rapidement que d'autres choses. Là, je parle du festif de Baie-Saint-Paul, le festival d'été de Québec ici. Tous les shows à l'Agora en fin de semaine, il y aura tout de même Styx qui va venir performer ici. On a hâte, ça va être tout un bon spectacle. Y en a-t-il des gens qui parmi l'auditoire, ils vont. Je veux le savoir. Hey, je vois des nouveaux noms par texto qui n'ont jamais texté. Je trouve ça donc bien le fun. Si ça vous concerne aussi, 418-971-1021, c'est le fun de voir ça. Vraiment, vous faites ma matinée. Dans quelques instants, on va parler avec Jérémy Gillot parce que j'ai envie de voir avec lui c'est qui ce futur peut-être candidat à la tête du Parti libéral du Québec, le maire de Victoriaville qui voudrait se présenter. Reg, je le connais parce qu'il voit tout le temps à Rock la cause, mais à part ça, on va faire un petit tour avec Jérémy Guillot là-dessus. Et aussi, toute la saga à Québec solidaire. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois devrait quitter le parti ou il devrait y rester? C'est comme s'il voulait rallier, en fait, des gens un peu plus progressistes. Puis il y avait quand même cette base-là de Québec solidaire qui souhaite revenir à ce qui était un petit peu plus les essences de Québec solidaire dans le temps. Je peux le décrire comme ça. Puis plus tard aussi, on va parler de potes, de cannabis, de marijuana. Restez là, je ne sais pas, même si vous êtes consommateur ou vous ne l'êtes pas, ça risque de vous intéresser. Comment est-ce que ça se fait qu'une entreprise de la région de Québec, de l'autre bord des ponts, Rive-Sud, soit capable de s'implanter au point où ça devient une renommée à l'international dans son produit? Puis, on va recevoir un des cofondateurs ici en studio, va venir faire son tour. J'ai écrit ce matin, j'ai dit non, là, ça m'intéresse. Pourquoi vous exportez en Allemagne? Comment ça s'explique? Puis il a dit, c'est correct, je vais venir faire un tour. On va jaser de cannabis plus tard à l'émission. Courte pause, on revient. Jérémy sera là avec nous pour faire le tour de cette dite politique. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, ça va être intéressant avec Jérémy.
C'est payant d'écouter Pascal Cévry.
On est de retour à l'émission. On va aller aborder un sujet qui fait déjà énormément réagir sur Twitch. J'avais une conversation complète sur Québec solidaire. On peut pas dire que ça laisse des gens indifférents, cette formation politique-là. Depuis le temps, ils étaient sortis un peu champ gauche il y a plusieurs années. Ils se sont quand même bien investis en politique. Ils ont réussi à faire leur chemin. Ils sont allés dénicher des personnalités connues suite à leur travail. Parce que, bon, au départ, c'était un petit peu des gens qui se connaissaient entre eux, mais pas nécessairement par le Québec. Et il y a eu Gabriel Nadeau-Dubois qui, depuis quelques années, a fait quand même plusieurs apparitions médiatiques, a réussi à dénicher une place importante au sein du parti qui, maintenant, ne fait plus l'unanimité, mais loin de là. On va en jaser de tout ça. Et certainement, dans les prochaines minutes, avec notre invité, Jérémy Guillot, qui est au bout du fil, il est directeur chez TAC. Il a la broue dans le toupette ces temps-ci, ça, c'est sûr, avec toutes les nouvelles politiques puis son travail au quotidien. Mais il nous accorde quelques minutes. Salut, Jérémy.
Bonjour, Pascal.
Deux sujets que je veux aborder avec toi. D'abord, c'est sûr, il y a Québec solidaire qu'on va analyser de fond en comble. J'ai l'impression qu'ils font la manchette ces temps-ci pour tout et rien. Mais nouvelle ce matin, un peu champ gauche. Moi, je ne l'avais pas vu venir. C'est pas quelqu'un que je connais nécessairement non plus. Je le connais par personne interposée parce que Reg Laplanche ici fait rock la cause à chaque année. Puis on sait que du côté de Victoriaville, c'est un événement prisé. Puis le maire est sur place. Il lui jasait. Il a toujours été un bon vivant, plaisant, poli, travaillant aux yeux de Reg, notre collègue. Mais là, on peut lire pour ce que j'appelais le parti en déroute du Parti libéral du Québec à la recherche de la personne qui va remonter peut-être le parti, ben un futur candidat, du moins peut-être l'homme qui sera à la direction du Parti libéral du Québec, le maire de Victoriaville, Antoine Tardy, fait la manchette sur ce sujet-là ce matin.
Bien, on voit le maire de Victoriaville. Est-ce que c'est lui qui a donné l'ordre de faire la promotion pour voir comment ça réagit ou est-ce que c'est des militants qui aimerait ça lui mettre un peu de pression? On le sait, le Parti libéral du Québec aussi va avoir un congrès en fin de semaine où on va réunir les anciens chefs, Dominique Anglade, Philippe Couillard, Jean Charest. Et il va avoir un hommage pour M. Couillard. Bref, ça s'active du côté du Parti libéral du Québec. Ils n'ont toujours pas trouvé leur chef. La prochaine chefferie va se déclencher en janvier 2025. Les candidats qui vont être sur la ligne de départ, on va avoir 3 mois pour récolter signatures, dont nouveaux membres. Et en avril 2025, ils vont devoir remettre leur formulaire d'entrée officiel qui va les amener à 4 débats nationaux et éventuellement la chefferie libérale. Antoine Tardif, maire de Victoriaville, ancien proche conseiller d'Alain Reyes, donc dans la famille conservatrice, ajoute son nom à la liste, déjà bien garnie quand même de candidats potentiels, hein? Denis Coderre, Charles Millard de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Carl Blackburn, l'ancien directeur général du Parti libéral du Québec, et Frédéric Beauchemin, qui est en ce moment député à l'Assemblée nationale. Donc, on commence à voir un engouement du côté du Parti libéral du Québec. Et quand je parle aux gens à l'interne, on dit aussi, on sent un vent qui tourne doucement. On a vu le parti monter dans les intentions de vote dans le dernier sondage léger qui a été publié il y a quelques jours. Donc, le Parti libéral du Québec est passé de 14 % à 17 %. Mine de rien, à part le Parti québécois, c'est le seul autre parti qui a connu une petite augmentation, rien à se péter les bretelles encore, mais c'est tout du positif. Et dans un parti qui ne va pas toujours extrêmement bien, on prend ces nouvelles-là. On les prend et on les garde précieusement.
Oui, bien là, écoute, tu en as dit de l'information, puis c'est vrai, puis à travers tout ça, tu as dit plusieurs noms de gens qui pourraient se porter à la candidature de cette chefferie-là. Puis au départ, bien, puis ça, on recule de quelques mois seulement, il y avait presque personne. C'était comme s'il y avait un pèlerin qui allait sortir d'un chemin de Compostelle à un moment donné pour dire oui.
Denis Coderre est en train de faire le chemin de Compostelle,
oui,
justement.
Oui, mais ça, je veux en parler avec toi parce qu'il est encore là, mais on dirait qu'il s'est terré un peu, là, il a pris un pas de recul parce que vu que finalement, s'exposer ou trop s'exposer, c'était peut-être pas gagnant. Mais comment est-ce que ça se fait que maintenant, le Parti libéral du Québec attire autant de candidats? Puis est-ce que trop, c'est pas assez?
Bien, je pense qu'on peut aussi donner le crédit aux organisateurs qui ont organisé la chefferie en 2025. Au début, tout le monde a critiqué un peu cette décision-là en disant c'est loin, ils n'auront pas de chef pendant longtemps, ils vont être pris avec Marc Tanguay comme chef intérimaire, le nouveau chef n'aura pas le temps de s'établir. Mais quand on regarde ça avec un pas de recul, et c'est ce que les stratèges libéraux me disent en ce moment, c'est de dire la décision de mettre ça le plus loin possible était réfléchie afin d'avoir une vraie course à la chefferie. On se rappellera la dernière course, mais ce n'est pas vraiment une course. Madame Anglade a été couronnée suite au désistement d'Alexandre Cusson. Donc, les libéraux voulaient éviter de se retrouver dans la même situation-là. On a mis la course un peu plus loin et, veut pas, quand on a des noms comme Denis Coderre qui disent être intéressé à la course à la chefferie, ça attire l'attention médiatique et donc potentiellement des nouvelles candidatures. Là, plusieurs libéraux vont aussi rêver au ministre François-Philippe Champagne. Bon, pour moi, ça ouais, demeure un peu du monde des licornes et des arcs-en-ciel, mais rêver, ça fait du bien à tout le monde. Je pense qu'on peut regarder dans les candidats qui sont là. Certainement, la plupart d'entre eux vont être présents à la ligne de départ.
Mais on voyait un peu le prochain chef. Puis là, je t'exclus de cette vision-là, mais de mon côté, puis avec un de mes co-animateurs, on voyait ce prochain chef-là comme étant celui qui s'en va reconquérir le cœur de certains Québécois, mais qui assurément croulera parce qu'il ne sera pas élu. Il y a tellement de constructions à faire, faut revoir un peu la vision du parti, il faut se réorienter. C'est quelqu'un qui va faire un job de bras, mais qui sait qu'il ne restera pas pour très longtemps parce que, justement, lorsque tu es toujours défait dans tes élections, à un moment donné, tu dois quitter. Mais elle est essentielle.
Une tendance de se débarrasser, j'appelais ça les chefs jetables, de se débarrasser rapidement des chefs et de passer à autre chose dès qu'on gagne pas une élection. Je pense que la voie du succès pour le Parti libéral du Québec sera de garder son chef et de vivre avec lui au moins deux élections. Et là, je dis lui parce qu'il n'y a pas de femme en liste en ce moment, là. Oui. Donc, de vivre avec le prochain chef, de lui donner le temps de s'établir et d'établir le style de leadership parce qu'il n'y a aucun PDG d'entreprise qui peut faire un changement de réussite rapidement. Dans un an, tout est changé, tout va mieux. Je pense que le prochain chef ne gagnera peut-être pas la prochaine campagne électorale. Si déjà on améliore le sort du parti, ce sera une belle victoire. Et lui donner le temps, un autre peut-être 4 ans ou un autre 2 ans et demi si c'est un gouvernement minoritaire, de bien établir sa présence médiatique, de bien se faire connaître des Québécois, un peu comme Paul Saint-Pierre Plamondon a eu l'opportunité de faire avec le Parti québécois. Et aujourd'hui, personne ne se serait attendu à ce que le PQ soit aux portes du pouvoir à 32 % des intentions de vote et la coalition Avenir Québec sur le bord de la porte de sortie avec 22 % des intentions de vote. Donc, tout peut se passer. On est encore très tôt dans le processus. Je pense pas que les libéraux vont remporter la prochaine. Je pense certainement qu'ils vont devoir garder leur chef, peu importe le résultat de la prochaine campagne.
Tu y crois-tu à Denis Coderre?
Est-ce que je crois que M. Coderre pense qu'il peut faire le travail? Oui.
Bonne façon de répondre à la question.
Est-ce que j'y crois? Non. Moi, j'ai déjà dit, le recyclage, c'est bon pour sauver la planète, pas un parti politique.
Puis Antoine Tardy, là, le maire de Victoriaville, l'information qui est sortie ce matin, c'est qui ce gars-là?
C'est une bonne question. Les libéraux le vendent aussi comme un gars de région compatible avec Montréal parce qu'il a étudié à McGill. Donc, c'est intéressant.
Juste pour ça. OK, oui, OK.
Oui. Ben, parce que pour les libéraux, veut pas, on peut pas mettre toutes les œufs dans les régions. On sait qu'on doit développer ce côté-là, mais on doit pas oublier non plus que la base militante, elle est montréalaise.
Ouais, on a parlé dans notre dernière chronique ensemble de l'importance des régions, comme quoi tous les partis en ce moment vont essayer de s'y arracher un peu, mais ils font pas exception.
Monsieur Tardy, le maire de Victoriaville, très peu connu, donc va avoir un travail énorme à faire au niveau de se faire connaître au niveau des électeurs, de se faire connaître chez les membres, parce que pour gagner la chefferie, ça prend 250 000 points des comtés. Donc, il faut gagner les comtés en région, il faut aller chercher au maximum de comtés qu'on est capable et il faut aller chercher le vote des jeunes. Donc, M. Tardy, là, peut avoir une belle avancée sur des candidats montréalais, connaît bien les régions.
Il a 34 ans aussi, il est jeune.
34 ans, ancien organisateur politique. Alain Reyes a levé la main pour lui organiser sa campagne.
Pas rien.
Il peut peut-être apporter quelque chose de nouveau dans le débat. En même temps, est-ce qu'il est capable de battre un Denis Coderre ou de battre un Carl Blackburn, même un Charles Millard qui apparemment pose de plus en plus de questions, qui est bien connu du monde des médias dans une éventuelle chefferie? Bien, on va voir ça, mais pour le moment, ça reste relativement quelqu'un de très peu connu pour le commun du mortel. Là. Peut-être qu'il est connu dans son coin chez lui, mais à l'extérieur de ça, il va avoir un gros, gros, gros travail à faire.
On va parler de Gabriel Nadeau-Dubois dans un instant et de Québec solidaire parce que ça faisait réagir avant même qu'on commence à en parler, Jérémy. Mais en terminant sur le sujet pour le Parti libéral du Québec, c'est sûr que là, tout ce qu'on fait aussi, c'est de penser à Marois Risky puis d'attendre de voir si ça peut l'intéresser. Mais on a comme compris que c'était pas dans sa visée actuelle.
Bien, vous savez, il y a d'autres choses que la politique dans la vie. Madame Risky vient d'avoir un enfant. On entend dire qu'elle travaille sur peut-être un deuxième. Et la vie de chef, malheureusement, ce n'est pas toujours compatible avec la vie familiale et encore moins quand ce sont des jeunes enfants parce que ça demande un don de soi constant. On demande à ces gens-là d'être disponibles 24 heures sur 24. Donc, quand notre priorité, c'est notre famille, c'est peut-être pas toujours l'emploi de rêve que de devenir chef de parti. Je suis convaincu que Mme Risky serait une bonne candidate, une bonne chef pour avoir déjà même travaillé avec elle. Mais si elle choisit de mettre ses efforts sur sa famille et toute son attention à ce niveau-là, je pense qu'on doit respecter ça. Qui sait, peut-être qu'elle sera présente dans une autre chefferie à court terme.
Et de toute manière, elle fait quand même un excellent travail, peu importe qu'on soit pour quel parti ou de quelle allégeance, là, elle fait un excellent travail en étant élue de cette manière-là en ce moment. Passons en terminant ensemble, Jérémy, sur le cas de Québec solidaire. Là, depuis des jours, on titre, est-ce que c'est la fin de Gabriel Nadeau-Dubois? Rififi au sein du parti, rien ne va plus, on retourne-tu aux vieilles essences, on continue-tu d'être progressiste? Mais là, il y a de l'impatience pour les gens qui... Bon, on choisit Québec solidaire depuis plusieurs années comme parti, mais il y a aussi de l'impatience auprès des autres qui sont un peu tannés d'en entendre parler. Et Gabriel Nadeau-Dubois ne fait plus du tout l'unanimité. Est-ce qu'il l'a déjà fait?
Est-ce que ce parti-là a déjà fait l'unanimité? Ben, je pense pas. C'est un parti qui a tendance à un peu brasser les colonnes du temple quand vient le temps d'amener des idées nouvelles. C'est un parti qui nous a habitués plus à être un petit peu plus dans les extrêmes à gauche. Madame David, à une certaine époque, les avait fait sortir de la marginalité.
Oui.
Les avait fait sortir de la région de Montréal. Elle était allée au débat des chefs. Elle a placé ce parti-là comme une potentielle alternative montante.
Il y avait eu quand même, je me souviens, là, dans la dernière décennie, il y avait eu des montées dans les chiffres là, aux élections. Là.
Oui.
Il y avait une poussée, un vent, justement, parce qu'on s'était restabilisé. On était moins dans les extrêmes à travers les dernières années.
Bien, les fondements du parti n'ont pas changé, n'ont pas vraiment changé. Le défi de Québec solidaire en ce moment, c'est de dire, est-ce qu'on veut un jour devenir une option de gouvernement. On en parlait la dernière fois qu'on se parlait. À ce moment-là, on doit faire un effort d'aller chercher davantage de personnes à notre mouvement. Et ça veut dire peut-être de délaisser certaines idées originales des fondations du parti, s'éloigner de l'extrême-gauche, se centraliser un petit peu pour devenir un peu plus attirant pour un plus grand pan de la population. C'est ce que Gabriel Nadeau-Dubois essaie de faire et c'est ce qui est contesté à l'interne. M. Nadeau-Dubois aussi dit ben, on doit repenser la façon de voir de notre parti, on doit se positionner comme une alternative et ça, ça ne résonne pas chez tout le monde. Est-ce que c'est une minorité bruyante ou bien une forte majorité des membres? On va le voir, eux aussi ont un congrès en fin de semaine. Pour moi, Gabriel Nadeau-Dubois a aussi préparé le chemin à sa sortie. Si jamais les membres rejettent cette vision-là de futur parti de gouvernement, ben est-ce que c'est le début de la fin pour Gabriel Nadeau-Dubois? On va le voir, mais certainement, il a posé les bases en disant « mais ce ne sera pas moi qui va quitter, ce sera les membres qui auront une vision qui n'est pas compatible avec la mienne ». Pour moi, l'autre chose qu'on devrait remettre en question, c'est la présence de co-porte-parole. C'est déjà compliqué dans l'opposition. Imaginez si on se retrouvait avec des co-premiers ministres, premières ministres. Ça deviendrait quelque chose de compliqué à gérer.
Imaginez à la CAQ en ce moment, il y a même du rififi à l'intérieur même du parti s'il y avait des gens.
Ben, peut-être qu'il y en a qui aimeraient mieux voir Geneviève Guilbeault que François Legault en ce moment avec son niveau de popularité. Mais bon, serait compliqué à gérer. Ça l'est déjà dans un parti de deuxième opposition.
J'ai l'impression qu'ils ont tous mangé la claque malgré tout du côté de la CAQ. Mais Gabriel Nadeau-Dubois, si jamais il quittait Québec solidaire, est-ce qu'on pourrait le revoir en politique au sein d'un autre parti? Est-ce que ce serait un transfuge?
C'est une bonne question, mais je pense pas. Je pense pas que c'est compatible. Il y en a beaucoup, j'ai entendu dire oh, peut-être qu'il va aller au PQ.
Oui.
Les idées de Gabriel Nadeau-Dubois sont incompatibles avec le Parti québécois pour moi. Sur un grand dossier, notamment, quand on parle d'immigration, les visions vont une contre l'autre. Donc, pour moi, je ne vois pas de chemin pour Gabriel Nadeau-Dubois d'aller au PQ. Et on voit plus de candidats en liste à la chefferie du PLQ venir de la famille conservatrice que de la famille progressiste fédéraliste. Donc, je ne vois pas non plus une alternative pour lui de ce côté-là. En même temps, c'est un jeune politicien. Il est encore jeune et fringant, aura probablement sans doute beaucoup à offrir à la société autrement, si jamais il décide de quitter.
Et on a déjà tout vu en politique. Moi, je dis toujours, tout ce qui leur reste, c'est de s'expliquer. Il reste juste à s'expliquer, finalement.
C'est vrai maintenant qu'on a tout vu, mais je serais franchement surpris de voir Paul Saint-Pierre Plamondon et Gabriel Nadeau-Dubois se serrer la main et faire la paix.
Merci beaucoup, Jérémy Guillaume. On te reparle la semaine prochaine. Tu es directeur chez TAC et tu es un tripeux de politique. Tu as travaillé longtemps comme stratège derrière, justement, tout le portrait que nous avons en tant qu'électeur. C'est un bonheur de t'avoir parlé ce matin.
Merci, Pascal.
Une belle journée. Bye. Vous avez réagi. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Mais continuez d'en jaser sur Twitch, twitch.tv/blvd/fm ou encore au 88-971-1021. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. On a fait le tour hein, de tous ces petits potins politiques-là et vous en avez long à dire. Celle qui vous surprend toujours, celle qui vient faire son passage en studio une fois de temps en temps et qui fait monter et même briser les records de Twitch, c'est Sarah Dufour. Elle est en spectacle. Elle est revenue de la Chine récemment. Ça a été toute une histoire de l'écouter en parler récemment dans le retour. Mais là, elle est en spectacle à travers le Canada, pas juste le Québec, le Canada. Si vous allez sur son site web, vous allez trouver d'autres dates que Québec. Mais quand même, des fois, un petit road trip pour aller voir quelqu'un qu'on aime, c'est toujours apprécié, toujours appréciable. Baseball, c'est ce qu'on s'en va écouter. Puis je vous rappelle que parlant de baseball, vendredi cette semaine, c'est le match Boulevard et les Capitales. Donc, ça va vraiment être le fun si vous achetez vos billets. On va être tous ensemble le 24 mai prochain, dans deux jours, au Stade Canac. Pour l'occasion, Boulevard sur place à la terrasse, mais aussi Boulevard sur place en musique. Et les Capitales de Québec vont affronter les Valleycats de Tri-City. Soirée 100% selon votre station préférée. Venez nous voir, les animateurs. On va être presque tous là. On va se faire du gros fun. Ça, c'est certain. Fait qu'on y va avec la thématique. Sarah Dufour, baseball.
CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
Ah, je vais vous faire travailler. D'habitude, vous êtes relax, on jase ensemble, vous travaillez parce que vous commentez un peu ce qui se passe sur les ondes. Vous êtes avec moi dans les sujets, puis en passant, je vous remercie de faire ça. Grâce à vous, on est une équipe dans leur CV. Je vous ai dit, hein, tantôt, on reçoit quelqu'un qui s'appelle William Rousseau. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est un des cofondateurs de Ono Cannabis. On a une usine du côté de Lévis qui fait de la production, de la transformation de cannabis et qui devient le joueur principal dans la région de Québec. Mais au-delà de ça, on se prépare à exporter un produit en Allemagne. C'est quand même ironique, c'est fascinant. Moi, ça m'a ce matin vraiment arrêté dans ma vie pour écouter, pour prendre conscience de ce que je suis en train de comprendre de cette entreprise-là en Allemagne. On s'entend après curseur depuis longtemps en matière de drogue, là, plein de facettes, qui maintenant va acheter un produit québécois dans une usine du quartier industriel de Saint-Nicolas qui est là depuis seulement 2021. J'ai vraiment hâte de parler à William Rousseau. Je sais qu'il est arrivé, on va le rejoindre dans un instant. Mais d'abord et avant tout, je vous fais travailler. Je pourrais vraiment être exigeante, comme une enseignante là, très, très exigeante du temps, puis vous dire c'est quoi le proverbe de la journée. Hein? C'était quoi le proverbe de la journée pour réussir à avoir votre paire de billets pour un spectacle très intime qu'on va faire ici, à Le Bourgneuf, sous nos studios, avec un des leaders de Papa Roach. On en parle depuis un bon bout, hein? Depuis quelques heures dans chacune des émissions.
There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that shit, take my money.
Parce qu'on va recevoir Jacoby Shadick, j'espère que je le dis bien. C'est le leader de Papa Roach le 3 juin prochain à la scène Le Bourgneuf. C'est un spectacle VIP. Vous allez capoter sur la formule storytelling. C'est animé par Reg Laplanche, qui d'autre? Ils vont pouvoir jaser ensemble. Et il y aura aussi le guitariste Jerry Horton qui vont pouvoir parler à cœur ouvert avec vous dans une petite salle intimiste. Là, c'est vraiment un show privé. Si vous êtes à l'écoute de Boulevard 102.1, vous avez appris tout ça cette semaine. Hein, on a commencé à l'annoncer et là, c'est officiel et c'est en association avec le Centre de prévention du suicide. On a trouvé que c'était une belle façon d'organiser quelque chose qui a un air d'aller. Et pourquoi on le fait? Parce que la santé mentale, c'est un thème récurrent dans l'œuvre de Papa Roach. Donc, c'est super important de faire ça, oui, pour vous gâter, puis en même temps de l'associer à une cause. Donc, je vous répète, là, c'est pour le Centre de prévention du suicide de Québec. On veut diminuer le taux de suicide dans la région de la capitale nationale. C'est malheureusement 2 par semaine. Il y a 7 personnes qui commettent une tentative aussi. Puis c'est des services 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 du côté de ce centre-là. Si jamais vous avez besoin d'aide ou vous voulez du soutien, 1-866-APPEL ou suicide.ca. C'est super important. Peut-être d'être alerte aux signes des gens qu'on aime, mais aussi d'aller chercher de l'aide si vous pensez que vous êtes seul. Maintenant, je vais vous faire travailler. D'ici la fin du show, si vous voulez votre paire de billets, ça va se faire en 2 étapes. La première, soyez sur Twitch. twitch.tv/blvd/fm. Parce qu'on se parlait de signes secrets, OK? On se parlait de signes secrets il y a quelques instants. Puis moi, je vais vous en faire un signe secret à un moment donné sur Twitch. Peut-être pendant la prochaine entrevue, mais c'est sûr d'ici la fin. Puis ce signe secret-là, il va falloir que vous le captiez, OK? Ça ne sera pas si compliqué que ça. Mais quand après, je vais donner le go pour appeler au 418-780-1021, bien là, vous allez appeler, vous allez me dire c'était quoi le signe secret, puis vous allez avoir votre paire de billets pour le show de Papa Roach intime ici à la scène Le Bourgneuf. Des niaiseries commencent à rentrer sur Twitch. Connectez-vous twitch.tv/blvd/fm. On revient dans un instant. Il va y avoir un signe secret. À un moment donné, d'ici la fin du show, qui est dans pas si longtemps que ça, quand même. Hey, Caravane, wow minute! Wow minute quoi, Caravane? Tu trouves que j'ai fait trop travailler? Non, mais quand même, c'est une place VIP. J'avais pas pensé au fait que vous pourriez commencer à analyser absolument tout ce que je fais en studio. Je me suis grattée puis les gens pensaient que c'était le signe. Mais c'est pas grave, c'est comique ce qui est en train de se passer. Beaucoup de gens sur Twitch, hein, vous êtes connectés pour essayer de voir c'est quoi le fameux signe que je vais vous faire pour que vous puissiez l'identifier et quand je vais donner le go, appeler et me dire quel était le signe pour gagner votre paire de billets pour le show privé de Papa Roach ici en bas à la scène Le Bourgneuf avec le centre de prévention du suicide. suicide et boulevard 102.1. Ça va être vraiment évident, mon signe. Là, paniquez pas. Essayez pas de scruter absolument tous les faits et gestes. Si je cligne des yeux, c'est normal aussi, OK? Alors, on va vraiment faire un signe très évident. Je suis contente d'accueillir en studio mon prochain invité. On s'est jasé vite, vite ce matin parce que j'ai vu ça passer là, dans les nouvelles. La compagnie Ono Cannabis. J'avais aucune idée que ça existait. Je pense pas nécessairement non plus qu'on est dans la promotion du genre, on s'en va cogner chez Ono Cannabis puis on en achète. Peut-être pour ça que tout ce qui est consommateur de cannabis n'est peut-être pas au courant qu'il consomme du cannabis d'ici. Mais on va aller tout démêler ça. Le fait étant, c'est une usine à Lévis qui est en train de s'implanter comme étant un bon leader autant dans la région de Québec qu'à l'extérieur. Et on se prépare en ce moment à exporter le produit que l'on fait pousser ici, que l'on crée, que l'on transforme en Allemagne. Et ça, ça m'a fasciné. Pour en parler, j'ai un des cofondateurs en studio qui s'appelle William Rousseau. Salut, William.
Salut, Pascal, ça va bien?
Ça va très bien. Merci de t'être déplacé.
Ça fait plaisir.
Là, toi, tu es un des 6 cofondateurs. C'est quand même une bonne équipe là, derrière l'entreprise. Pourquoi 6 personnes?
Ça a commencé avec 3 cofondateurs, un espèce de rêve qui a commencé, qui s'est créé en 2016, pré-légalisation, bien sûr.
Quand on en parlait un peu, mais il n'y a rien qui était fait.
Il n'y avait rien qui était fait. Il y avait la légalisation du médical qui était là depuis 2001. Mais on savait qu'il y avait de fortes chances dans ce temps-là qu'en 2018, il y ait une légalisation. Donc, on a commencé à travailler le projet à ce moment-là, 3 personnes.
Faisiez quoi avant ces 3 personnes-là?
Moi, je travaillais, moi, j'étais directeur dans les assurances, job complètement. Donc, j'ai fait les Desjardins de ce monde, SSQ, tout ça, puis j'ai travaillé un petit peu partout. Les autres étaient plus entrepreneurs. Dans le fond, les deux cofondateurs que j'avais avaient des restos T'sais, dans le fond, c'était ça leur business. Il y avait des restaurants à ce moment-là. Puis on a travaillé ce projet-là en parallèle de nos jobs pendant un bon bout de temps. C'est sûr qu'il y a eu un moment où il a fallu sauter dans le vide puis
foncer,
y aller à temps plein. Mais c'est un processus qui est très, très long parce que très réglementé. Donc, n'obtient pas une licence qu'il veut. Puis encore moins aujourd'hui. T'sais, c'était déjà très, très tough à l'époque, mais c'est encore pire aujourd'hui parce que là, on a de l'historique. Puis bon, c'est pas tout le monde qui a réussi. Je sais que c'est de ça que tu veux parler aussi.
Il fallait avoir quand même une bonne colonne vertébrale pour se dire, nous, on travaille là-dessus, puis on met quand même beaucoup d'argent pour développer notre entreprise. Là, vous étiez 3, vous êtes rendu 6. Ouais. C'est aussi peut-être pour ça que vous êtes regroupé à plusieurs personnes. Là. C'est quand même vouloir mordre dans l'industrie du cannabis, dans une nouvelle légalisation, dans des paramètres qui ne sont pas toujours très clairs, sont assez flous, avec beaucoup de préjugés. Il fallait quand même être fou.
Oui, c'est une belle folie. Ça prenait une folie extrêmement calculée, par exemple, parce qu'on savait que les banques n'allaient pas sauter là-dessus. Donc, on savait que ça serait très difficile au niveau des institutions financières traditionnelles. Donc, c'est pour ça qu'on s'est regroupé avec, dans le fond, on est tous des gens d'affaires autour de la table. Donc, on a eu la chance d'avoir des entreprises autour qui étaient prospères, donc qui allaient bien financièrement et tout ça, qui nous ont permis d'être capables de... Tu sais, au départ, on était allé chercher des investisseurs privés pour quelques millions, mais après ça, on est allé piger dans les entreprises qu'on a autour pour pouvoir injecter parce qu'on savait... Quand le moment de l'investissement puis le moment où on commence à faire des revenus, il y avait des années d'écart là. Donc il fallait calculer ça.
Ouais. Aussi. Ouais. Tu sais, c'est bien beau se lancer dans le cannabis, faut connaître la plante, faut être capable de la faire pousser, faut être capable de l'entretenir, faut être capable d'éviter des champignons, des ci, des ça dans ta plante de cannabis. Donc qui est-ce qu'on allait recruter pour faire pousser ça, ce cannabis là? C'était-tu des Martins qui faisaient ça dans leur garde-robe pendant plusieurs années?
Il y a beaucoup évidemment là, dans les premiers joueurs de cannabis. Au départ, on dirait que le gouvernement voulait comme un peu éloigner ces personnes-là. Puis à un moment donné, ils ont comme réalisé que l'expertise était dans le marché noir avant. Dans notre cas, on connaissait ça. Moi, j'ai été élevé dans une famille extrêmement ouverte où mon père faisait des huiles. Puis chez nous, c'était comme un médicament. Puis c'était tout est bon sans abus. Fait que, pour moi, puis ma propre mère a été traitée aussi à l'huile de cannabis. Elle est décédée aujourd'hui, mais on a comme fait une extension de 10 fois sa durée de vie prévue.
Avec le médical.
Avec le médical, c'est ça. Pas fumer, mais vraiment des huiles ingérées. Puis, fait que donc, on était tous un petit peu...
Connectés
à ça. Puis on en avait fait pousser, pas illégalement, mais dans ça, on avait des licences médicales, nous, avant de faire ça là, professionnellement.
Oui.
Donc, on connaissait ça, mais on savait qu'en cours de route, c'était sûr qu'on allait devoir recruter des gens de l'industrie. T'sais, l'industrie était jeune, mais nous, on n'est pas arrivés dans les premiers. Mm-hmm. Puis aussi, après ça, ça ajoute toutes les jobs vraiment particulières qui se rapprochent plus du pharmaceutique, comme toute l'assurance qualité. C'est des gens qui viennent soit du pharma ou qui viennent carrément de l'industrie du cannabis, parce qu'il y en a qui étaient là avant 2018 parce que le médical était déjà légalisé. Donc, tu sais qu'à un certain moment donné, tu vas amener des gens comme ça. Tu as besoin de cette expertise-là. Puis avec le temps, comme là, on commence à avoir quelques années de légalisation, bien là, il y a des gens qui ont travaillé dans d'autres usines, qui ont été maîtres de culture ailleurs et tout ça.
Ils se sont formés de cette manière-là. Ouais, mais d'abord, c'était pas mal un peu dans le milieu interlope ou encore dans tout ce qui avait été pharmaceutique ou médical.
Exactement,
oui. Puis là, quand même, Ono Cannabis, petit quartier industriel de Saint-Nicolas, je vous dis petit, on s'entend, c'en est un bon, mais on se comprend, seulement depuis 2021. Et là, vous êtes devenu le joueur principal dans le marché de production et de transformation du cannabis dans la grande région de Québec. On peut dire quand même que vous êtes important au Québec aussi.
Oui.
Puis on vous a approché et vous avez démarché l'Allemagne pour exporter de votre cannabis là-bas. Je pense que c'est médical, en fait, l'exportation.
Oui.
Mais comment ça s'explique dans un pays où, normalement, on est connu pour être précurseur de toute drogue depuis bien des années?
Tu parles en Allemagne?
En Allemagne.
Ben, c'est ça. Au niveau de la légalisation, les pays, tu sais, là, il y a une vague de légalisation au récréatif qu'on commence à observer.
Oui.
Mais il y a des pays aussi qui ont légalisé aussi avant le volet médical, dont l'Allemagne. Donc, l'Allemagne ne produit pas vraiment au légal, donc a besoin d'importer. Donc, puis le Canada est un pays de choix dans les choix d'importateurs parce qu'on a quand même un bon nom à l'international depuis la légalisation
déjà.
Aussi. Oui, quand même.
Déjà. Ouais. Parce que justement, c'est un milieu qui est un petit peu plus sombre, un peu plus gênant dans lequel travailler. Est-ce que vous avez fait face à beaucoup de préjugés?
Je dirais qu'il y a des stigmates, oui, parce que, tu sais, quand je parlais au niveau les banques, ça va prendre du temps avant qu'elles embarquent, bien, les banques, c'est sûr que quand tu es, on va dire en français, up and running, puis que là, tu génères des revenus et même des profits, bien là, ils ont plus tant de risques, donc là, sont plus partants pour regarder le dossier. Mais on savait à l'avance que, tu sais, on a travaillé très, très tôt les institutions financières traditionnelles.
Toi, tu étais issu du domaine aussi, veux pas, tu savais peut-être un peu qui contacter.
Oui, puis on, autour de la table aussi, je pense qu'on était tous habitués avec les institutions financières, de près ou de loin. Fait qu'on savait qu'on devait présenter cette entreprise-là, non comme une entreprise de cannabis, mais comme une entreprise à part entière. T'sais, nous, on veut être excellent dans tout ce qu'on fait. On veut être un exemple de belle entreprise, de bonne entreprise, pas juste dans le cannabis, tout court. C'est un peu une question qu'on a eue hier avec le journal. C'est comme, est-ce que le monde, il fume-tu des joints dehors? Non, c'est strictement interdit. T'sais, une erreur peut causer des millions de dollars de pertes aussi. Puis, ironiquement, c'est
vous
pas tant...
pas une gang de poteux.
Non,
disons-le comme
non.
Ça, vous n'êtes pas une gang de poteux entre quatre murs. Là.
Non, parce qu'on ne se serait pas rendu là non plus, parce qu'à un moment donné, il faut vraiment avoir toute sa tête pour naviguer là-dedans, parce que c'est très complexe aussi au niveau de tout ce qui est réglementation. Les normes et tout ça, l'obtention de licence, c'est que c'est sûr qu'il fallait être tout là.
Vous allez investir 5 millions de dollars pour agrandir l'usine prochainement. Une production annuelle de cannabis de 5 000 à 10 000 kilos.
Oui.
Fort probablement qu'avec la demande en Allemagne, ça va encore prendre de l'expansion.
Oui.
Est-ce que ensuite vous voulez démarcher ailleurs dans le monde?
Bien, il faut savoir qu'au récréatif, on est déjà au Québec. On fait une expansion canadienne.
Avec la SQDC.
Oui, on travaille à SQDC ici. Puis en Ontario, on est à OCS aussi. Donc, on a déjà des produits là depuis un bon moment qui performent très bien. Fait que ça, on continue de le développer.
Est-ce qu'il y a un bout à ce que vous leur offrez? Si, admettons, vous produisiez quatre fois plus, ils prendraient-tu tout votre matériel? C'est-tu populaire à ce point-là?
Oui et non, dans le sens que ça fonctionne par appel de produits. Donc, puis il y a vraiment une grande période d'évaluation de ton produit, comment il performe aussi. C'est ça qui va dicter, dans le fond, dans le prochain, ils appellent ça des planogrammes. Dans le prochain planogramme, qu'est-ce qu'on va être capable de mettre sur les tablettes.
Okay.
Puis ils font vraiment un gros ménage aussi de ce qui ne performe pas. Ils vont juste pas le remettre sur les tablettes.
Puis comment tu vois la suite par rapport à tout ce qui est bonbons ou autre qu'on voit à travers le Canada ou à l'international, que nous, ici au Québec, on n'a pas le droit de commencer à transformer?
Bien, tu l'as bien dit. Dans le fond, au Québec, c'est très différent d'ailleurs au Canada déjà. Fait qu'au Québec, tout ce qui est bonbons et tout ça, on risque probablement d'être les derniers à autoriser ça. Faut pas que ça ait l'air trop attrayant. Au Canada non plus, mais tu sais, en Ontario, il y en a des jujubes et des bonbons, des trucs comme ça. Mais ici, particulièrement au Québec, faut comprendre aussi que notre gouvernement actuel, il est pas tant enchanté de ça. On a mis l'âge à 21 ans aussi. Ici au Québec, alors qu'ailleurs, c'est 18 ans.
Il y a encore beaucoup de contraintes.
Oui, c'est tout. On peut pas... n'importe où au Canada, on peut pas faire des claims en bon français sur les bienfaits ou les effets et ces choses-là. Puis on peut pas le rendre trop attrayant.
Ouais.
Donc, nous, on a un brand qui est très fort, très coloré, mais il faut vraiment, vraiment se tenir sur une ligne là, qui est très strict.
C'est peut-être pour ça que l'international aussi est convoité là, pour Ono Cannabis. On va vous suivre. En tout cas, c'est fascinant de voir que vous êtes en train d'exporter à l'international une entreprise d'ici, de Québec, 6 tripeux, mais investisseurs et aussi entrepreneurs qui ont décidé de se rassembler pour faire rouler l'économie. Du cannabis.
Oui, disons-le absolument,
comme ça.
Absolument.
William Rousseau, merci d'être passé. Un des confondateurs. On se reparle.
Oui, merci.
Excellent.
À la prochaine.
Puis, il y a quelque chose que les auditeurs attendent aussi grandement. C'est...
Le signe.
Oui. Fait que ça va être ça ici. Oh. Alors, si vous voulez peut-être avoir la chance d'avoir cette paire de billets, 418-780-1021. William, on ferme l'émission ensemble.
Ah oui, c'est cool.
Merci
ça.
D'être passé.
Ça fait plaisir.
Bonne continuité. Félicitations de faire rayonner Québec et les environs avec votre entreprise. C'est tout pour leur CV. On se retrouve dans Mars au midi dans quelques minutes. Yannick est là, bien sûr. Thomas Gauthier aussi. Ça a été toute une émission. Puis à tout de suite, au téléphone. Bonne chance. 102.1.